Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft, une association UTCN qui promeut un internet plus libre, plus éthique et inclusif, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui sensibilise les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu hors série puisqu'on va pas parler directement de libre, mais on va parler transition technologique, sociétale et environnementale. Alors si c'est une émission hors série, elle n'est pas hors sujet pour autant puisqu'on pense que Picassoft, comme tous les acteurs du libre, s'inscrivent dans cette transition. Alors aujourd'hui, je suis avec Rémi de Picassoft. Salut Rémi.
Bonjour à tous.
Et on a le plaisir de recevoir Valérie et Raphaël. Salut à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
Salut à tous, moi c'est Raphaël Brun, donc je suis étudiant à l'UTC en génie informatique semestre 5. Donc j'ai fait partie de la première API, on va arriver tout de suite après sur ce que c'est le dispositif d'API, d'activité pédagogique d'intersemestre. Donc j'ai fait partie de la première édition de cette API ID en UT, donc c'est-à-dire ingénierie durable en université de technologie, puisqu'il y a trois écoles que nous sommes. Et donc, je co-anime avec Valérie cette deuxième édition.
Ok, super.
Et donc, moi, c'est Valérie Moreau. Je suis enseignante-chercheure à l'UTC. Et donc, depuis une bonne année, je me mobilise avec les étudiants, enfin, en accompagnant les étudiants sur, justement, les problématiques de transformation de nos formations pour mieux intégrer les enjeux que tu as cités en thème de l'émission d'aujourd'hui.
Alors effectivement, c'est un truc qu'on en a déjà parlé, qu'on retrouve beaucoup chez les étudiants. Là, Raphaël, tu as mentionné les API, tu as mentionné ID en UT. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'inscrit directement dans la formation de l'ingénieur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est une API et qu'est-ce que c'est l'API ID en UT?
Alors, les API, activités pédagogiques d'intersemestre qui ont été créées. Donc là, c'est la troisième édition, mais il y avait eu des prémices avant sous la forme d'une semaine Sorbonne Université qui avait rencontré pas mal de succès de la part du côté des étudiants et des profs qui avaient contribué aussi. Et donc, il y a eu une décision. Donc, il y a deux personnes qui ont pris en main ce dispositif. Donc, qui sont Emmanuel Doré et Stéphane Croza, qui gèrent l'ensemble du dispositif des API qui ont lieu donc à l'intersemestre, les deux premières, mais cette année apparemment les trois premières semaines de l'intersemestre, et les deux premières semaines aussi qui suivent les finaux en juillet. Et
donc ouais, c'est des activités qui sont créditantes, permettent aux étudiants...
C'est deux crédits, okay. Et qui sont validés en fonction de leur thématique. Soit en TSH, soit dans l'une des branches, en TM.
Ouais, donc TSH, tout ce qui est un peu sciences humaines, sciences sociales et tout, ouais, ok. Et du coup, ID en UT, qu'est-ce que c'est cette API? Quelle est sa raison d'être?
Alors, la posture, donc c'est moi qui ai créé cette API, mais c'était vraiment pour accompagner une initiative étudiante. En fait, ça a vraiment été une rencontre. J'ai rencontré des étudiants qui étaient assez nombreux à revendiquer le fait que la formation de l'UTC devait évoluer parce qu'elle ne leur permettait pas de se former aux enjeux qu'ils auraient à relever, aux défis qu'ils auraient à relever dans leur carrière d'ingénieur. Et donc, moi, j'avais un petit peu l'envie aussi de faire des choses et la conviction qu'il fallait changer des choses. Et donc, je me suis dit, je me mets à votre disposition pendant une semaine. Vous formaliser vos idées. Moi, je vous aide sur un plan méthodologique à formaliser ça. Et il se trouve que ça rencontrait aussi des initiatives côté UTT. Et donc, en fait, on a co-animé la première UTT-UTC avec des étudiants de l'UTT et de l'UTC qui ont commencé, du coup, à formaliser les transformations qu'ils voulaient voir arriver dans la formation des UT.
Ok. Donc, toi, Raphaël, je crois que tu avais participé à la première édition de l'API.
Exactement.
Qui avait eu lieu, du coup, il y a un semestre. Et ça avait été débouché sur des propositions qui ont été présentées donc, par vous lors d'un séminaire qui réunissait les enseignants, la direction et des étudiants des UT, justement. Alors, globalement, sur quoi a débouché cette première édition et quelles sont les nouveautés de cette seconde édition? Est-ce que l'idée, c'est de refaire la même chose ou de continuer le travail?
Alors donc la première édition, c'est vraiment portée sur poser une vision globale, poser les valeurs qu'on veut, qu'on souhaite pour notre ingénieur demain, donc avec l'idée d'une projection en 2050, donc vraiment de faire confronter tout ce qui est enjeux environnementaux et sociaux, notamment la grosse crise climatique qu'on est en train de traverser et qu'on sait qui ne peut être que encore plus impactante dans les années à venir. Et donc, avec l'idée qu'en 2050, ce sera vraiment catastrophique. Et qu'est-ce qu'on fait pour que l'ingénieur puisse y répondre à l'horizon 2050? Donc ça, c'était pendant la première édition. Et ça a débouché sur quoi? Ça a débouché sur principalement deux scénarios. Donc déjà, une liste des compétences de cet ingénieur. Donc déjà, ça, c'est primordial. Et ensuite, deux scénarios. Un scénario de continuité, donc qui s'inscrit par rapport au modèle actuel des UT, des 3 UT, et un autre plus en rupture avec vraiment des idées qui sont plus radicales et plus tournées vers il faut résoudre ces enjeux-là et on n'a pas le choix de faire autrement. Donc donc avec un petit peu ces deux scénarios-là. Ensuite, donc effectivement, il y a eu le séminaire du groupe UT qui, je le rappelle, a lieu tous les ans. Donc c'est-à-dire que c'était pas fait exprès pour cette occasion-là, mais donc nous, on en a essayé d'en profiter pour présenter nos travaux. Donc en fait, il y avait trois ateliers durant ce séminaire. Donc un sur la recherche, un sur la réforme du bac et l'autre qui était justement celui qu'on a animé. Donc en réalité, on était avec enseignants-chercheurs, d'autres étudiants et des membres des directions des 3 UT, à animer d'abord sur deux jours. Donc d'abord un premier atelier, la première journée, qui était réellement sur s'approprier, enfin retransmettre un petit peu notre travail, notre cheminement de pensée et commencer à s'approprier tout ça. Ce qui, la deuxième journée, a donné réellement un travail de comment faire pour réellement améliorer la formation dans les 3 UT. Et là, pour le coup, tout le monde s'est prêté au jeu. Ça a été assez fascinant à voir, puisque il y avait encore très peu de maturation à ce moment-là.
Donc y compris les enseignants-chercheurs et des membres de la direction, des gens qui ont pu voir votre travail directement. C'est quand même sacrément, sacrément stylé, ça.
Il y avait des paperboards partout sur les murs, des trucs dessus, et ça dialoguait d'égal à l'égal entre les enseignants génial. Et les étudiants, etc. Et c'était vraiment... c'était un moment assez, assez sympa.
Et du coup, qu'est-ce qui en est ressorti de cette journée, enfin de ces deux journées?
Alors, pour donner l'idée de ce que ça a été, donc à la fin, il y a eu ces deux jours d'atelier et il y a eu la restitution en plénière, donc des trois ateliers à la suite, donc entre autres d'une autre. Et donc, il y a eu vraiment ce moment fort d'échange et de communication de ce message de voilà, il y a une urgence, il y a quelque chose de toute façon, il y a quelque chose à travailler. Et nous, notre message, plus à titre personnel, était de. Il faut vraiment qu'on commence à faire bouger les choses dès maintenant et pourquoi pas envisager actuellement le motto à l'UTC, donc on parle des 3 UT en général, mais là l'UTC, le motto c'est « Donnons un sens à l'innovation » et nous on était là à proposer carrément une autre ligne de directrice qui était prenons en main les enjeux actuels et faisons des ingénieurs humanistes, des ingénieurs du durable. Voilà, à mettre entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti, alors pour l'instant, donc un rapport que nous sommes encore en train de finir de formaliser, c'est dire à quel point la tâche est longue et complexe. Mais donc, un rapport que nous sommes en train de formaliser qui va pas tarder à sortir, donc qui sera publié le plus largement possible.
Début du semestre.
Voilà.
Début du semestre prochain, ouais. On l'attend.
et de la part de la direction, alors là, du coup, je parle au niveau UTC, puisqu'on n'a pas encore eu, on n'a pas eu de nouveaux échanges depuis avec les deux autres UT. Peut-être peux-tu je sais pas si tu veux rebondir sur ce point-là sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre direction.
Il y a eu une réception, il y a eu une écoute et puis il y a des choses qui se sont passées aussi au cours du semestre avec d'autres enseignants aussi qui à la suite de cet API ont commencé à se mobiliser sur ces sujets-là. Il y a un groupe qui est en train de se monter là d'ailleurs, c'est cet après-midi que la présentation au CEVU a lieu donc avec des étudiants, des enseignants qui vont travailler avec un rythme très régulier là, à partir du début du semestre prochain pour vraiment réfléchir et mettre en place un certain nombre de solutions, expérimenter des choses, en faire le bilan, voir comment ça peut s'intégrer dans la formation.
Alors c'est vrai que juste, on l'a pas précisé, parce qu'il y a sans doute des gens qui sont pas du tout de l'UTC qui nous écoutent, donc l'UTC, école d'ingénieurs et université, et donc le réseau des UT, c'est trois universités de technologie en France, donc à Belfort, Montbéliard, à Troyes et à Compiègne, voilà, juste pour préciser au cas où. Alors du coup, donc, on a eu cette première édition qui a débouché sur deux scénarios, qui a mobilisé beaucoup de monde, qui a créé beaucoup de discussions qui visiblement ont été enrichissantes et ont lancé pas mal de projets avec plein d'idées qui germent dans la tête à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs. Maintenant, deuxième édition d'Idées en UT, c'est quoi l'objectif de cette édition et voilà, comment ça s'organise?
Donc là, l'idée, c'était plus d'opérationnaliser tout ce qui avait été fait. Donc il y avait un début, il y avait une ébauche de plan d'action déjà à la fin de la première API. Et l'idée de la deuxième, c'était vraiment d'avoir quelque chose de plus... de profiter justement de ce moment-là qui est en train de se créer avec ce collectif transcollège et trans... qui concerne étudiants et professeurs et de tous horizons. Voilà, il n'y a pas de catégorisation d'une seule branche ou d'un seul département. Et donc vraiment l'idée de proposer à ce qui serait donc du coup ce commanditaire de collectif, quelque chose qui puisse être mis en place dès le semestre prochain et ensuite jusque dans les 5 ans à venir.
Alors là, tout ce que tu dis, c'est prometteur, mais quand même, si vous n'avez toujours pas fini le rapport de la dernière fois, c'est que c'est quand même un travail qui prend beaucoup de temps. Là, comment, en une semaine, vous arrivez à formaliser tout ça de façon à ce que, là, dans 3 semaines, on puisse rattaquer le nouveau semestre avec toutes ces propositions? Vous avez des billes là-dessus ou juste vous essayez et on verra bien ce que ça donne?
Alors, actuellement, donc, le travail est énormément là autour de l'expérimentation et voir comment est-ce qu'on peut expérimenter. Alors, peut-être, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la première API étant très méta, ça a été énormément difficile parce qu'il s'agit de valeurs, il s'agit de vision et c'est énormément, enfin ça demande une très forte subtilité pour arriver à rédiger ça de manière lisible, compréhensible et acceptable.
Et je souligne qu'ils étaient 25 dans la première API, donc il y avait aussi un temps significatif pour justement partager tout ça, se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions, etc. Donc, il y avait... Là, on est sur un travail donc, plus opérationnel. Et donc, ce n'est pas le même type de rendu non plus. Et ensuite, l'objectif, donc, c'est de prioriser, on va dire, certaines actions, parce qu'ils ne peuvent pas, en une semaine, en effet, là ils sont 8 sur ce groupe-là, ils ne peuvent pas formaliser toutes les actions, évidemment, qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc, c'est en prioriser certaines, celles-ci, les formaliser, et... Justement, le client de ce travail-là, ça va être le collectif qui va pouvoir mettre en œuvre ces actions-là, mais en ayant déjà eu un pré-travail voilà pourquoi ça c'est important, voilà ce qu'on peut en attendre, etc. Mais il y aura une réappropriation par le collectif derrière pour pouvoir le mettre en œuvre.
Ok. Est-ce que vous avez des petits exemples du coup d'actions, des exemples assez généraux qui pourraient être compris par tout le monde, ou est-ce que c'est trop spécifique à l'UTC, ou c'est encore assez flou
Il y a pas mal de... Je discutais tout à l'heure avec un enseignant qui disait donc... il y avait plusieurs points de vue qui a adopté par rapport à justement la manière d'opérationnaliser tout ça. Donc une était vraiment de lancer des expérimentations pour, entre guillemets, un petit peu infester, au sens positif du terme, la formation actuelle et essayer de faire bouger par l'exemple qui ensuite... par la force des choses, devrait se généraliser. Et au final, plutôt que d'être dans une injonction et quelque chose de très contraignant, d'être dans quelque chose qui, juste par l'exemple, va amener les choses beaucoup plus naturellement dans la transformation. Et un de ces exemples-là, c'est cet enseignant en question qui me disait, moi, dans mon cours, je fais des choses, mais j'aimerais bien peut-être pouvoir avoir la visibilité, être connu, comme étant une sorte de label d'expérimentation et en même temps qu'on m'outille là-dessus, qu'on me dise avoir les outils nécessaires pour que dans ce cours on puisse parler des choses avoir une sorte de checklist ou d'outils méthodologiques qui permettent de se dire voilà, là on a bien cerné une partie du problème qui devait être enseignée dans cette UV et visiblement ça a été acquis par quel processus d'évaluation et comment est-ce que c'est accaparé par les étudiants, mais justement voilà, de vérifier que tout ça c'est bien, ça se met bien en place. Et donc là par exemple il y a sans doute quelque chose à jouer à ce niveau-là au niveau des ressources pédagogiques pour les enseignants dans les cours, dans les UV.
Un autre exemple, donc là, ils ont listé effectivement les premières actions. Il y a une action qui est sortie comme, et qui était déjà sortie d'ailleurs, dans la première API, une nécessité en fait de sensibiliser déjà massivement les étudiants, la population étudiante de l'UTC, parce que le niveau d'information n'est pas le même pour tous. Et donc, il y a déjà des choses qui existent un petit peu. Il y a la SEDD, mais donc c'est voir par exemple, comment donner de l'ampleur à cette SEDD.
On rappelle la semaine étudiante du développement durable qui est organisée au niveau national.
Par le REFED, donc j'ai plus l'acronyme qui est...
Semaine étudiante de la durabilité.
Oui, mais pour
le réseau
étudiants fédérés.
On a compris.
On cherchera. Tiens, Rémi, je crois que tu es en train de regarder.
Et donc, elle a eu lieu pour la première fois et là, elle est réappropriée. Et ça avait été monté dans le cadre d'un enseignement. Donc là, c'est réapproprié par des étudiants hors enseignement.
Ouais.
Et voir comment on peut donner de l'ampleur à cet événement, le massifier dans sa fréquentation, etc. Et puis aussi, il y a l'idée de faire quelque chose au moment de l'intègre, au moment de l'intégration des nouveaux. Ouais. Il y a déjà eu une initiative qui, pour le coup, là, est vraiment portée par l'administration, les leçons inaugurales qui ont eu lieu. Donc, il y a eu deux éditions déjà. Et de voir, de regarder s'il y a moyen, en effet, d'intégrer davantage l'intégration et justement cette initiative pour en faire quelque chose dont les étudiants s'emparent davantage. Là, aujourd'hui, c'est vécu de manière un peu juxtaposée, voire peut-être concurrente dans certaines situations. Donc, vraiment d'en faire quelque chose de central dans l'intégration et l'accueil des nouveaux.
C'est très intéressant cette idée de quelque part montrer l'exemple, de monter des projets et d'espérer que, comme tu disais, ça se développe, ça infeste, comme tu disais, positivement. Et en fait, je pense que tu as parlé de la semaine étudiante de la durabilité. Il y a aussi le forum de l'ingénierie durable
qui fait partie du scope.
Complètement. Et tous ces événements, j'ai l'impression, inspirent vraiment les gens qui n'étaient pas forcément concernés, qui ne se sentent pas concernés par des injonctions, comme tu disais, du style il faut absolument que vous fassiez ça, parce que des fois, c'est vécu un peu comme une agression. Le fait que ça fasse partie du paysage et que sans contrainte forte, ils voient que c'est quelque chose qui fonctionne, qui peut apporter du positif. Je pense que c'est... en tout cas, c'est une super piste. Quoi. Nous, chez Picassoft, on a aussi vu, par exemple, les services qu'on proposait, le fait que les profs en parlent, le fait juste qu'on soit là et qu'on ne demande pas aux gens « il faut que vous fassiez ça, mais par contre, sachez que ça existe et qu'ils voient que des projets qui sont possibles avec. »
Et en effet, il y a un vrai enjeu, et c'est un des questionnements là, de cette API, à faire en sorte, par contre, que ça ne reste pas à côté de la formation, mais que ça vienne vraiment s'intégrer de manière beaucoup plus forte à l'intérieur de la formation. Et que ce ne soit pas juste des initiatives étudiantes d'un côté, une formation d'ingénieur de l'autre, ce soit vraiment, vraiment le plus imbriqué possible, progressivement.
Donc là, il y a un enjeu vraiment par rapport aux enseignants et par rapport à la construction des programmes et tout ça. Ouais.
Et l'idée, c'est que le collectif, justement, travaille sur cette problématique.
Et du coup, par rapport à ça, on voit que dans l'idée de transition écologique, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, je sais que vous avez passé beaucoup de temps à en parler, mais on comprend l'idée. L'ingénieur a une place très importante parce que ça va être toutes les infrastructures qui vont être construites par les ingénieurs qui vont du coup pouvoir aider ou pas cette transition écologique. Donc on voit vraiment que l'ingénieur a une place importante là-dedans. Est-ce que c'est vraiment compatible du coup la formation ingénieur avec ces valeurs-là ?
La formation actuelle, tu veux dire ?
Est-ce que c'est possible de former des ingénieurs du coup qui soient sensibilisés à ça ?
Alors c'est rigolo parce que c'est exactement le thème du débat qui a fait naître l'API Idée en UT, parce que c'est en assistant à ce débat lors de la semaine étudiante de la durabilité que justement l'idée de l'API est née. Donc c'était controversé, ça dépend de la définition qu'on donne aussi de l'ingénieur, mais en gros l'enjeu est peut-être de modifier justement ce rôle et la posture de l'ingénieur qui traditionnellement on va dire au niveau national français est plutôt dans une logique de reproduction des élites et du coup de reproduction des schémas déjà déjà ancré, vers quelque chose de différent et de lui donner une capacité de transformation par rapport à un contexte qui lui-même est en train de se transformer. Donc il y a un défi parce que ça nécessite de revoir des modes de pensée, de revoir des modes de fonctionnement, de structuration de l'esprit, etc. Donc c'est profond, il y a du challenge.
Mais il faut du challenge.
Il y a un très gros challenge et en même temps, je pense qu'on doit, et en même temps, c'est là tout l'enjeu de la réflexion, c'est comment faire pour quelque chose dont on ne sait même pas encore cerner le totalement le... Enfin, on voit l'enjeu, mais on ne sait pas cerner, on ne sait pas où est-ce qu'on exactement aller, on n'a pas de cible précise. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on se demande comment faire. Typiquement, je reviens d'une conférence du séminaire GE90, qui est donc sur, j'ai plus le titre exact, mais qui est sur, en gros, économie et transition écologique. Et c'était justement sur comment la pensée écologique peut presque se tirer une balle dans le pied, peut presque comment être contradictoire dans la manière de voir le rapport humain-nature. Et par rapport à ça, justement, est-ce que c'est possible de faire une ingénierie durable ? La même question se pose, du coup, si dans la perception qu'on a, en fait, en réalité, des enjeux de notre environnement, de notre rapport à la nature, en réalité.
Mais de toute façon, même si on n'a pas encore la réponse de est-ce que c'est vraiment possible de faire une ingénierie durable, c'est super important ce que vous faites, c'est-à-dire de questionner aussi le rôle de l'ingénieur, dans la mesure où aujourd'hui, alors je ne vais pas généraliser, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont l'air de former des experts techniques, mais qui réfléchissent pas nécessairement au fait que justement la technique soit pas neutre, qu'il y a un rôle de créateur et d'inventeur qui est très important chez l'ingénieur et qui n'est peut-être pas forcément représenté dans les besoins des entreprises aujourd'hui. Donc le simple fait de donner les outils aux gens pour réfléchir à leur futur travail, aux conséquences sociales et pas seulement à l'expertise technique, c'est déjà quelque chose qui est super important et qui gagnerait à être développé, quoi.
Oui, d'autant plus que les entreprises, elles sont composées d'individus et que les individus, ils arrivent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils savent. Et en effet, et là, de plus en plus, on voit des individus qui commencent à être conscientisés dans les entreprises, mais par contre, ils ne sont pas nécessairement équipés et outillés, ouais, pour penser différemment ou pour faire différemment. Donc là, il y a un enjeu, justement, au-delà du fait de conscientiser, mais d'équiper, en fait, les futurs ingénieurs pour qu'ils soient en mesure de, à la fois, prendre les bonnes décisions et puis mettre en place les bonnes méthodes, les bons outils et d'utiliser les techniques de manière appropriée au regard des enjeux qu'ils auront.
Sinon, on laisse juste des chômeurs en dépression, quoi.
Yes. Valérie, tu parlais des entreprises, bah, ça tombe bien justement. Parce que la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, les grosses entreprises, on peut penser du secteur automobile, de l'aviation, du numérique, tout ce que tu veux, il y a une énorme demande d'ingénieurs qui, du coup, amène à des partenariats avec la plupart des écoles d'ingénieurs, y compris l'UTC. On sait que c'est des entreprises qui, en tout cas globalement, sont très polluantes et en tout cas versent pas dans un modèle de durabilité, mais plutôt de consommation. Enfin voilà, bon, sans rentrer complètement dans leur procès, mais est-ce que du coup il est possible d'imaginer la transformation d'une formation d'ingénieur vers un ingénieur qui serait en tout cas plus durable, si tant est que ça existe, tout en continuant à avoir cette demande et ces partenariats entre les universités et les entreprises?
Alors oui, effectivement, j'ai un avis sur le sujet, je ne sais pas si c'est le bon, mais j'ai été responsable des relations entreprise-formation pendant plusieurs années, donc du coup, je connais bien le contexte et j'essaye de mettre les pieds dans des entreprises plusieurs fois par semestre, et notamment sur des sites industriels. Donc je vois un peu ce qui se passe et les transformations qu'elles sont en train de vivre aussi. Il y a le FID, Forum de l'ingénierie durable, qui s'est positionné vraiment sur un secteur qui me semble extrêmement important, qui est les organisations qui sont engagées dans la transition, mais c'est-à-dire qui se sont mises en rupture justement du modèle économique dont tu parles. Et donc ça, c'est une des voies pour les étudiants qui souhaitent s'engager. Mais cette voie-là, aujourd'hui, en effet, elle ne permet pas d'absorber l'ensemble des ingénieurs qui sont formés chaque année. Et à côté de ça, les entreprises dont tu parles, c'est des entreprises qui ont besoin de se transformer. Et elles en ont pris plus ou moins conscience selon les entreprises, avec des niveaux de paradoxe interne aussi qui sont plus ou moins forts. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu aussi à accompagner ces entreprises dans leur propre transformation. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment adresser les deux problématiques. Et il y a des étudiants qui souhaiteront intégrer ces entreprises-là pour accompagner leur transformation. Et inversement, des étudiants qui souhaiteront sortir de ce cadre-là pour aller faire d'autres choses dans d'autres types d'organisations. Mais je pense qu'il faut laisser de côté toutes ces entreprises. Ça veut dire les laisser continuer à faire ce qu'elles font aussi. Et je sais, ça ne me paraît pas forcément souhaitable, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus nombreuses à avoir pris conscience qu'il faut qu'elles changent.
Oui, il vaut mieux aller les infester aussi, comme on essaie d'infester le reste de la formation.
C'est toujours la question de est-ce qu'il vaut mieux être complètement radical et quitte à rester dans son coin et à faire les choses de son côté, ou bien, je mets des gros guillemets, mais faire un peu le jeu pour espérer changer le système de l'intérieur. Et ça se pose dans absolument toutes les questions,
et même dans le logiciel libre. Et je suis pas sûre qu'il y ait une réponse, et ça dépendra de la sensibilité de chacun.
Tout à fait.
Et du coup, je pense que les deux portes doivent rester, à mon sens, doivent rester ouvertes à l'échelle d'un établissement comme l'UTC. Je pense qu'il faut qu'on... Voilà. Après, par contre, en effet, se poser la question, aider les étudiants à se poser la question de ce pourquoi ils travaillent,
absolument.
Quels enjeux il y a derrière, les projets qu'ils mènent, etc., ça me semble fondamental.
Ok. Moi, il y avait une question qui m'intéressait vachement sur votre manière de travailler, puisque bon, vous l'avez dit, vous étiez 25 à la dernière API, là vous êtes plus que 8, mais quand même, comme Rémi l'a rappelé...
Pas les mêmes personnes, je précise.
Ouais, absolument. Et du coup, en une semaine, produire... En tout cas, un plan d'action, même s'il n'est pas complet, c'est quand même très difficile. Surtout que j'imagine que chacun a son expérience, ses billes à apporter. Donc, il faut les mettre sur la table, essayer de faire un mix de tout ça. Comment on s'y prend pour qu'il y ait une communication qui soit la plus fluide possible, que tout le monde respecte un peu la parole de l'autre et qu'on arrive à produire quelque chose qui soit ni trop mou, ni trop radical, qui convienne à tout le monde? Alors, je sais que c'est une question difficile, mais comment on fait au mieux, disons?
Alors déjà, sur le point communication, ce que je peux dire, c'est qu'on utilise pas mal la communication non-verbale, donc c'est-à-dire pas non-violente, mais au sens où on a des gestes pour communiquer et éviter de s'interrompre en permanence, et qui est vraiment pratique pour, partager sans tomber dans une forme de violence ou en tout cas d'arrêt intempestif, et donc du consensus. Au-delà de ça, on est pas mal dans ce que je crois que tu appelles, Valérie, la théorie CK. Mais donc, on a simplifié à essayer d'élargir notre vision et ensuite se ramener à quelque chose de plus concret et réélargir. Donc, entre abstrait, une respiration entre abstrait et concret, et qui permet à chaque fois d'essayer de réajuster le tir. Donc, à des moments, on part dans des choses... Enfin, par exemple, typiquement, ils ont... Voilà, le groupe de cette semaine a eu à un moment... c'est toujours assez long. Il y a un cheminement de réflexion à essayer de reprendre. Il y a un fil à reprendre. Et donc, il y a tout un moment d'appropriation du travail qui a déjà été réalisé. Donc, voilà, ça, c'était un peu une première partie. Et après, il y a reposer, en fait, ces valeurs qui, en fait, fait partie de leur propre chemin de réflexion, qui est nécessaire. Et ensuite, à d'autres moments, ils produisent une cartographie, par exemple, des acteurs et amener des actions en priorité sur ces acteurs. Voilà, donc là, on a un exemple de quelque chose qui était plus concret. Ensuite, on repartait sur plus de l'abstrait avec un schéma, justement, de cette sorte d'infection, entre guillemets, entre le dispositif expérimental et la formation et comment faire converger les deux. Et voilà, et à des moments, en fait, on est entre... je pense une respiration entre abstrait et concret qui permet effectivement d'essayer d'ajuster le tir par rapport à où est-ce que se situe notre objectif, sachant que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'un petit peu informe. Et après, en réalité, c'est le retour un peu réflexif sur tout ce qui s'est passé pendant la semaine, là, qui arrive là en fin de semaine, cet après-midi, demain matin, avant leur soutenance, et qui est vraiment justement le moment où on se retourne sur le travail qui a été fait et qu'on se dit là c'est bien, là effectivement ça manque peut-être de pertinence par rapport au modèle actuel, c'est avec tout ça. Oui, tu as raison.
Juste une réaction sur les méthodes effectivement de formalisation. Déjà, beaucoup d'utilisation de management visuel, c'est-à-dire que c'est là, les murs de la salle sont entièrement recouverts de schémas, de graphiques sur des paperboards, sur les tableaux, etc.
Une magnifique salle d'art plastique.
Et ils vivent dedans pendant une semaine. Et ça, c'est okay, important. Ouais. C'est pas juste sur un écran dans un coin. Voilà, c'est ils vivent au milieu de leur production de la semaine au fur et à mesure, et du coup, ils peuvent y revenir, etc.
C'est un engagement très très fort.
Ouais,
aussi,
et puis il y a une mémoire. Du coup, il y a une mémoire qui imbibe en fait.
Ouais.
L'autre aspect, c'est comme il l'a dit, un peu entre abstrait concret, mais c'est en fait c'est vrai sur d'autres niveaux. Mais moi, ce que j'essaye de leur faire faire, c'est de jongler en permanence et de manière itérative entre deux niveaux très éloignés. Par exemple, voir loin dans le temps, regarder près dans le temps, puis regarder à nouveau loin, puis regarder à nouveau près, etc. Pour enrichir cette double vision du près et du loin, on affine le près parce qu'on est capable de regarder loin, on voit mieux loin parce qu'on est capable de regarder plus près, etc. Pareil sur le macro-micro.
Ouais.
On regarde macro, on élargit, et ensuite on revient micro, et du coup on comprend mieux le macro, et on comprend mieux, etc. Et donc de faire ces allers-retours aussi en permanence, ça peut sembler une perte de temps un peu au début parce qu'ils voudraient directement être près micro, etc. Pour certains, d'autres seraient plus à l'aise dans voir loin et macro tout le temps. Mais c'est cet aller-retour qui permet au final d'être productif.
Ok, c'est vraiment super intéressant. Au niveau de... Parce que moi, je trouve que ce que vous faites, c'est assez novateur quand même. C'est super chouette et ça pourrait inspirer peut-être d'autres universités qui voudraient un peu mettre en... réunir des étudiants, refaire un peu ce genre de choses. Du coup, où est-ce qu'on pourra retrouver, par exemple, le premier rapport de l'APIC quand il sera publié? Est-ce qu'il y aura peut-être des petits retours d'expérience sur les manières de travailler ensemble, sur tout ce genre de choses, qui pourraient aider d'autres personnes à propager tout ça, mais en plus ailleurs de Compiègne et du réseau des UT?
C'est une super bonne question. Je pense que comme le compte rendu de, il y avait une grande consultation qui avait eu lieu le semestre dernier, donc je pense que le rapport va suivre à peu près les mêmes canaux pour l'instant de diffusion que le compte rendu de la consultation qui avait eu lieu l'année dernière. Moi, j'aimerais bien, j'ai une idée, j'en ai plein des idées, c'est un truc aussi. Mais j'aimerais bien, en effet, capitaliser sur tout ce qui s'est passé. On a commencé à faire une frise, d'ailleurs, que Raphaël a formalisée sur un peu tout l'historique là, des différents événements qui avaient eu lieu depuis à peu près un an. Et du coup, de la documenter. Et en effet, de faire des retours d'expérience, parce que là, c'est juste des événements qui sont écrits, mais du coup, pour chaque événement, pouvoir le documenter. Et je me dis que ce serait super top d'avoir une sorte de site ou de portail, en fait, qui permette de capitaliser au fur et à mesure sur chacune des expériences, et que ce portail il soit inter-UT, et bien que sûr. Chaque UT puisse alimenter sa démarche, sa réflexion, et qu'on puisse, comme ça, en plus, s'irriguer mutuellement des idées des uns et des autres.
Mais bon, ça prend du temps, voilà. Quoi, en général.
C'est comme ça qu'on se finit un semestre plus tard avec un rapport qui n'est pas fini.
Mais voilà, c'est vrai que souvent, on a envie de proposer des choses, d'avancer, et ça, c'est compliqué aussi de faire cette rétrospective, de prendre
le
temps.
Pour le coup, ça pourrait faire l'objet d'une PR.
Et c'est exactement ce que je suis en train de penser.
Mais carrément, ce serait une super idée. Moi, je pense que ça peut inspirer plein de monde, et c'est vraiment des choses qui...
Donc PR, UV projet à l'UTC.
C'est parti.
Et pour le coup, juste par rapport aux méthodes de travail, j'avoue qu'on n'y a pas du tout pensé, parce que c'est déjà énorme d'essayer de rendre une cohérence un peu à tout ce qui a été pensé.
Bien sûr.
Plus d'essayer de diffuser les méthodes de travail. Non, c'est vrai que c'est pas facile.
J'abuse un peu, mais.
Ça, c'est plutôt notre boulot d'enseignant aussi, pour le coup, et c'est à ça, pour moi, là, pour le coup, c'est ma principale fonction, c'est de vous accompagner sur le plan méthodologique, quoi.
Ouais.
Après, le contenu.
Bon, moi, j'ai plus de questions. Rémi, t'as des questions encore?
Non, j'ai plus de questions non plus. juste vous dire que c'est super ce que vous faites. Ouais.
C'est super sympa de nous avoir invités.
Merci de nous avoir invités. Ouais.
Génial.
C'est très chouette.
Du coup, merci encore d'être venu. On va vous souhaiter du coup une bonne fin d'API en espérant que vous réussissiez à aller jusqu'au bout de vos objectifs, en tout cas, ou d'une partie. Et on va se quitter en musique en écoutant The River's Going Wild de Black Island Hood, qui est en licence évidemment libre CC by NC et qui a été déniché sur le site Au bout du fil par Audrey. Bonne écoute et à bientôt. Salut.
Salut.
That nothing stays. where the river flows.